2. Au déjeuner, une demi-heure après, Olivier parut singulièrement mal à l'aise. Et c'est de quoi sa mère, une vieille dame de près de 80 ans, se rendit compte aussitôt, sans doute, car après avoir jeté un coup d'œil sur lui et un simple mot de bonjour, elle retomba dans le silence. C'était cependant une bien agréable chambre, cette salle à manger, toute voisine du cabinet d'Olivier, et meublée, suivant l'usage universel, dans des tons vert clair. Ses fenêtres donnaient sur un minuscule jardin derrière la maison et sur la haute muraille tapissée de lierre qui servait d'enclos à la propriété. Les meubles, eux aussi, étaient du type habituel. Une table ronde, assez grande, se dressait au milieu, entourée de trois hauts fauteuils, pourvus des angles et des coussins les mieux adaptés aux convenances du corps. Et, au centre de la table, un piédestal, pareil à une large colonne ronde, supportait les plats. Il y avait plus de 30 ans déjà que dans toutes les maisons, la coutume s'était établie de placer la salle à manger au-dessus de la cuisine et de monter ou de descendre les plats au moyen d'un appareil hydraulique qui aboutissait au centre de la table des repas. Quant au plancher, il était revêtu tout entier de la préparation en liège abscestos inventée en Amérique, étouffant le bruit, plaisante à la fois pour les pas et pour les yeux. Ce fut Mabel qui rompit le silence. « Et ton discours de demain ? » demanda-t-elle à son mari. Cette question parut ranimer un peu Olivier et le remettre en train. Le fait est que Birmingham commençait à s'agiter. On se reprenait à réclamer une fois de plus le libre-échange avec l'Amérique, faute de pouvoir trouver en Europe des débouchés suffisants. Et c'est Olivier que le gouvernement avait chargé de calmer ses aspirations mécontentes. Il se proposait de dire aux gens de Birmingham que, en tout cas, leur agitation resterait forcément vaine jusqu'au jour où l'affaire de l'Orient se trouverait réglée. Mais on lui avait permis d'ajouter que le gouvernement était tout à fait partisan du retour prochain du libre-échange. À eux de prendre patience et de rester calmes en attendant. « Ces gens sont stupides, » déclara-t-il d'un ton fâché. Stupides et d'un égoïsme sans borne. Ils sont pareils à des enfants qui pleurent et crient pour manger, tout en sachant que leur dîner viendra dans quelques instants. Et tu leur diras cela ? Qu'ils sont stupides ? Certainement. Mabel considéra son mari avec un sourire charmé. Elle savait fort bien que la popularité d'Olivier reposait surtout sur ses habitudes de franchise, car rien ne plaît tant aux masses que d'être grondé, injurié, par un homme intelligent, courageux et doué d'un pouvoir magnétique d'éloquence. Elle-même, d'ailleurs, n'aimait rien autant chez son mari. « Et comment iras-tu ? » lui demanda-t-elle. « Par l'aérien. Je prendrai celui de 18 h à Blackfriars. La séance est à 19 h, et je serai de retour à 21 h. » Après quoi, il se remit vigoureusement à manger. Et sa mère, rassurée, le regardait avec son patient et affectueux sourire de vieille femme. Mabel, ayant fini son déjeuner, tambourinait doucement sur la nappe de ses doigts sveltes et légers. « Hâte-toi de finir, mon chéri, » dit-elle, « car il faut que je sois à Brighton dès 3 h. » Olivier avala précipitamment sa dernière bouchée, posa son assiette sur la plateforme du milieu de la table, puis, ayant constaté que plats et assiettes s'y trouvaient tous installés, pressa un ressort. Aussitôt, sans le moindre bruit, la plateforme disparut. La vieille Madame Brandt était une personne d'apparence saine et vigoureuse, toute rose par-dessus ses rides, et ayant sur la tête une résille, comme les femmes en portaient 50 ans auparavant. Mais on sentait que ce jour-là, une inquiétude ou un chagrin troublait sa bonne humeur ordinaire. Ce fut elle qui, la première, se leva et sortit de la salle à manger. « Sais-tu si maman a quelque chose ?» demanda Olivier. « Oh !» répondit Mabel, « c'est toujours l'affaire de ces viandes artificielles. La pauvre femme ne peut pas s'y habituer. Elle croit que nous allons en être tous malades.
Et rien d'autre ?
Non, mon chéri, je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre. Elle n'aurait point manqué de m'en parler s'il y avait eu quelque chose.
Quelques instants après, la jeune femme sortit à son tour, et Olivier la suivit des yeux jusqu'à la grille du jardin. Il avait été un peu troublé, deux ou trois fois les jours passés, par quelques paroles étranges qui avaient échappé à sa mère. Celle-ci, dans sa première enfance, avait reçu une éducation chrétienne, et son fils avait parfois l'impression que des traces de cette influence de jadis se réveillaient en elle. C'est ainsi qu'elle avait déterré, parmi ses vieux livres, un certain « Jardin de l'âme ». Et souvent elle se plaisait à le lire, tout en protestant qu'elle n'attachait aucune importance à son contenu. N'importe, Olivier aurait préféré qu'elle brûlât ce mauvais livre, car il savait que la superstition est chose tenace et fort capable de reprendre possession d'un cerveau affaibli. Le christianisme, d'après lui, était une croyance à la fois barbare, à cause de la ridicule impossibilité de ses dogmes, et stupide, et triste, et ennuyeuse, à cause de la façon dont elle s'écartait du courant joyeux de la vie humaine. Mais il savait que cette misérable croyance survivait encore çà et là, dans de petites églises sombres. Et il se rappelait le mélange de dégoût et d'horreur qu'il avait éprouvé un jour en assistant à une cérémonie dans la cathédrale catholique de Westminster. Quelle honte si à présent sa propre mère se mettait à regarder avec faveur ces folies dégradantes. Quant à lui, Olivier, aussi loin qu'il pouvait se rappeler ses opinions politiques, toujours il avait été violemment opposé aux concessions que l'on avait cru devoir accorder à Rome et à l'Irlande. Toujours il avait estimé intolérable que cette ville et ce pays fussent laissés à la disposition des sectateurs d'un culte aussi insensé et aussi malfaisant. Il considérait Rome et l'Irlande comme des serres chaudes de sédition, en même temps que comme des taches de lèpre sur la face de l'humanité. Jamais il n'avait pu se mettre d'accord avec ceux qui prétendaient qu'il fallait mieux que tout le poison de l'Occident se trouvât concentré en deux endroits, au lieu de continuer à être répandu dans l'Europe entière. Et cependant, c'est cette dernière opinion qui avait prévalu.
Rome avait été livrée entièrement aux vieillards blancs, en échange de toutes les cathédrales et églises monumentales de l'Italie. Et Olivier s'indignait de penser que les ténèbres du Moyen-Âge régnaient, aussi épaisses que jamais, dans l'ancienne capitale du monde. Pour ce qui était de l'Irlande, cette nation, 30 ans auparavant, aussitôt qu'elle avait obtenu son « home rule », s'était déclarée catholique, et du même coup avait ouvertement rejeté toute institution communiste. L'Angleterre avait consenti, en souriant, à cette révolution irlandaise, trop heureuse d'être délivrée elle-même d'agitations possibles par le départ immédiat pour l'Irlande d'une bonne moitié de sa population catholique. Et maintenant, toutes sortes de choses grotesques se produisaient de nouveau dans l'île catholique. L'autre jour encore, Olivier, avec un plaisir amer, avait lu la nouvelle d'apparition, dans un village irlandais, d'une dame en bleu, et d'autels édifiés à l'endroit où s'étaient posés les pieds de ce fantôme. Mais la cession de Rome au pape l'indignait bien plus vivement encore, car il sentait que le transfert à Turin du gouvernement italien avait privé celui-ci d'une grosse part de son prestige, tandis que la vieille folie religieuse se trouvait auréolée de tous les souvenirs historiques associés à l'idée de Rome. Sa seule consolation était de se dire qu'une telle situation ne pouvait plus durer bien longtemps, et que déjà une foule d'hommes politiques et de journalistes, dans toutes les parties du monde, commençait à proclamer la nécessité d'y mettre fin. Rentré dans son cabinet, Olivier se tint debout quelques minutes à la fenêtre, s'enivrant de la glorieuse vision de solides raisons qui se déroulaient sous ses yeux. Il considérait le développement infini des toits, les énormes voûtes vitrées des bains et gymnases publics, les dômes des écoles où chaque matin
la jeunesse s'instruisait des devoirs et des droits de l'état de citoyen. Et les quelques flèches même des églises ne parvenaient point à distraire sa vue de la vivante grandeur du spectacle environnant. Il songeait à cette ruche infinie d'hommes et de femmes qui, remplissant l'espace ouvert devant lui, avaient enfin appris pour toujours les principes de l'Évangile nouveau, à savoir qu'il n'y avait d'autre Dieu que l'homme, d'autres prêtres que les chefs d'État, ni d'autres prophètes que les maîtres d'école. Et c'est d'un cœur tout réchauffé qu'il se remit à la rédaction de son discours de Birmingham. Sa jeune femme, elle aussi, s'abandonnait librement à la rêverie, tandis que, enfoncée dans un ample fauteuil, avec son journal sur les genoux, le wagon automobile l'emportait dans la direction de Brighton. Sans doute les nouvelles de l'Orient la tourmentaient plus qu'elle ne l'avait fait voir à son mari, mais elle ne pouvait se décider à penser qu'il existât un réel danger d'invasion. Toute la vie occidentale était désormais si raisonnable, si tranquille. Le monde avait enfin posé le pied sur un roc si solide. Comment imaginer que l'humanité se laissât de nouveau ramener dans les anciens marécages de l'ignorance et de la sauvagerie? Non, cela était contraire à toutes les lois de l'évolution. Et pourtant, si cette catastrophe se produisait, si la marche du progrès, une fois de plus, se trouvait arrêtée par un éclat soudain des forces secrètes et malfaisantes de la nature. Dans le demi-compartiment voisin, deux hommes s'entretenaient des travaux publics en cours d'exécution, décrivant la hâte fiévreuse qui présidait à ces travaux. Mais ces images, sans que Mabel sût pourquoi, l'inquiétaient plus qu'elle ne l'attiraient. D'autre part, impossible de songer à considérer le paysage par les fenêtres de la voiture automobile. Sur ces grandes lignes, la vitesse de marche interdisait de rien voir. Du moins, la jeune femme tâchait-elle à se distraire en examinant le plafond blanc du wagon. Les délicieuses peintures dans leurs encadrements de chêne, les grands globes qui, au-dessus des voyageurs, répandaient une douce et charmante lumière. Puis le grand appel retentit. La légère vibration devint un peu plus sensible. Et, dès l'instant suivant, la porte automatique s'ouvrit et la jeune femme se trouva sur le quai de la station de Brighton. Comme elle descendait l'escalier qui conduisait au square de la station, elle remarqua un prêtre qui marchait devant elle. Vu ainsi de dos, avec ses cheveux blancs, il semblait un vieillard, mais très droit et solide, car il s'avançait d'un pas admirablement ferme. En bas de l'escalier, il s'arrêta, se retourna à demi. Et alors, à sa grande surprise, Mabel découvrit que son visage était celui d'un jeune homme, avec de beaux traits énergiques, d'épais sourcils noirs et des yeux gris d'un éclat singulier. Un moment après, il se remit en marche et la jeune femme, à quelques pas derrière lui, pénétra dans le square, poursuivant son chemin vers la maison de sa tante. Mais, soudain, sans autre avertissement qu'un coup de sifflet aigu qui semblait venir du plus haut des airs, une série d'événements extraordinaires se produisirent. Une grande ombre tourbillonna au-dessus de Mabel. Un bruit de déchirement se fit entendre, puis un autre bruit, pareil au soupir d'un géant. Et comme la jeune femme s'arrêtait, effrayée, voici qu'un objet énorme, avec un nouveau bruit pareil à celui de milliers de chaudrons brisés, vint s'abattre devant elle sur le sol caoutchouté. Et puis l'objet se tint immobile, remplissant la moitié du square, et agitant à sa partie supérieure deux longues ailes qui tournaient, frappaient l'air comme les bras de quelque monstre préhistorique, tandis que des cris et des gémissements humains s'élevaient, nombreux et confus, dessous la machine. Mabel ne se rendit aucun compte de ce qui suivit. Mais quelques minutes après, elle se sentit poussée en avant par une pression violente et, tremblant de la tête aux pieds, s'aperçut qu'elle était sur le point de poser le pied sur quelque chose qui ressemblait à un corps humain écrasé. Une espèce de langage articulé sortait de ce corps. Mabel saisit distinctement les noms de Jésus et de Marie. Puis tout à coup, derrière son dos, elle entendit une voix qui lui disait « Veuillez me laisser passer, madame, je suis un prêtre. » Elle resta immobile quelque temps encore, interdite par la soudaineté de l'aventure. Et c'est presque inconsciemment qu'elle vit le jeune prêtre aux cheveux gris se mettre à genoux et, tirant un crucifix qu'elle portait sous son manteau, elle le vit se pencher sur le mourant, agiter sa main, approcher le crucifix des lèvres ensanglantées et puis, s'étant relevé précipitamment, aller recommencer le même manège auprès d'une autre des victimes de la catastrophe. Mais bientôt, du haut des marches d'un grand hôpital, à droite, des hommes descendirent, tête nue, chacun tenant dans la main un objet qui avait la forme des appareils photographiques d'autrefois. Et Mabel, comprenant qui étaient ces hommes, sentit son cœur bondir de soulagement. C'étaient les exécuteurs de l'euthanasie. L'appareil qu'ils portaient allait mettre fin aux souffrances des agonisants, les faire passer doucement, délicieusement, dans le royaume de l'éternel repos. Puis la jeune femme eut la sensation d'être prise par les épaules et refoulée en arrière. Et longtemps encore, elle dut rester là, au premier rang d'une foule compacte de gens de police et de curieux, avant d'être enfin autorisée à continuer sa marche vers la maison de sa tante. 3. Olivier fut saisi d'une frayeur atroce lorsque sa mère, une demi-heure plus tard, accourut lui apprendre que l'un des grands aériens nationaux venait de tomber dans le square de la station de Brighton, juste au moment où le train de 14h30 venait d'y décharger ses voyageurs. Il savait ce que signifiait cette nouvelle, car un accident du même genre s'était produit 2 ans auparavant sur la place du marché d'une petite ville du sud de l'Écosse. Cela signifiait que tous les passagers de l'aérien étaient tués, comme aussi probablement maintes d'autres personnes qui s'étaient trouvées sur le lieu de l'accident et que le choc subi avait écrasé. Et par conséquent, le télégramme était assez explicite. Mabel certainement devait s'être trouvée dans le square à cette minute. Il envoya un message affolé à la tante de sa femme pour s'informer. Après quoi il se laissa tomber dans un fauteuil, tremblant de tous ses membres. Sa mère, à peine moins angoissée, s'était assise près de lui. « Plaise à Dieu !» lui arriva-t-il une fois de murmurer parmi ses larmes. Mais aussitôt elle s'arrêta, toute confuse, en voyant son fils se retourner vers elle. Le fait est que Dieu, ou son remplaçant, le destin, s'était montré pitoyable. Moins d'un quart d'heure après, M. Phillips accourut, tout rayonnant de bonheur, apporter la réponse rassurante de Brighton. Et bientôt, Mabel elle-même entra dans la chambre, très pâle, mais le sourire aux lèvres. « Ma chérie !» s'écria Olivier, en s'élançant vers elle avec un profond sanglot. Elle n'avait que peu de choses à lui raconter. Aucune explication du désastre n'avait encore été publiée. On lui avait dit seulement que les ailes de l'aérien sur l'un des côtés avaient cessé de fonctionner. Du moins, elle décrivit ses propres impressions, l'ombre gigantesque qu'elle avait vue descendre du ciel, le sifflement lugubre de l'appareil et le bruit de la chute. Puis elle s'arrêta. « Eh bien, chérie ?» lui demanda Olivier, qui s'était assis tout contre elle et avait pris l'une de ses mains dans les siennes. « Figure-toi qu'il y avait un prêtre là-bas, » dit Mabel. « Je l'avais d'ailleurs déjà vu auparavant à la descente de la gare. » Olivier eut un petit rire méprisant. « Et tout de suite il s'est mis à genoux, » reprit-elle, « avec son crucifix dans la main, avant même l'arrivée des médecins. « Dis-moi, mon chéri, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient à tout cela ?»« En tout cas, ils s'imaginent qu'ils y croient, » répondit son mari. Toute la chose avait été si soudaine, et cependant tout de suite il était là, comme s'il s'était attendu à ce qui a eu lieu. Mais enfin, Olivier, comment peut-on avoir de telles croyances? Les hommes sont prêts à croire n'importe quoi, pourvu qu'on les y accoutume d'assez bonne heure. Et cet homme avait l'air de croire aussi, je veux dire le mourant, j'ai vu ses yeux. Olivier, mon chéri, qu'est-ce que tu dis, toi, aux gens quand ils vont mourir? Ce que je leur dis, mais rien. Que veux-tu que je leur dise? Au reste, je ne crois pas que j'ai encore vu mourir personne.
Ni moi, jusqu'à tout à l'heure, reprit la jeune femme avec un petit frisson. Les gens de l'euthanasie, d'ailleurs, sont vite arrivés, et tout a été fini en quelques minutes.
Olivier tendrement lui pressa la main. « Ce doit avoir été affreux, ma chérie, tu en trembles encore. »«
Non, mais écoute, vois-tu, si j'avais eu quelque chose à leur dire à ces mourants, j'aurais été heureuse de le leur dire aussi. Ils étaient à quelques pas de moi. Et j'ai bien cherché, mais j'ai vu que je ne savais rien, absolument rien qui pût les consoler. Je ne pouvais pourtant pas songer à leur parler de l'humanité. »
« Ma chérie, tout cela est bien triste, mais au fond, cela n'a guère d'importance. Le mal est désormais accompli. »«
Et ces pauvres gens, c'est tout à fait fini ?»«
Ben oui, sans doute. »
Ma belle tint ses lèvres serrées un instant, puis elle soupira. Elle avait eu, dans le train de retour, une sorte de méditation très agitée. Elle savait parfaitement que ce n'était que ses nerfs qui se trouvaient en jeu. Mais n'importe, elle ne parvenait point à les apaiser. Comme elle l'avait dit à son mari, c'était la première fois qu'elle voyait la mort.
« Et alors ce prêtre, reprit-elle, ce prêtre ne croit pas que tout soit fini ?»«
Ma chérie, je vais te donner une idée des choses qu'il croit. Il croit que cet homme, à qui il a montré le crucifix et sur lequel il a prononcé des formules, que cet homme est maintenant vivant quelque part, malgré l'anéantissement de son cerveau. Quelque part, mais il ne sait pas où. Car, ou bien cet homme se trouve dans une sorte de fourneau, où il est condamné à brûler à petit feu, ou bien, s'il a de la chance, et que ce morceau de bois qu'il a baisé ait produit bon effet, il est quelque part derrière les nuages, en présence de trois personnes qui n'en font qu'une, tout en étant trois. Et il croit qu'il y a, dans cet endroit, une foule d'autres personnes, notamment une certaine dame en bleu et un grand nombre d'hommes et de femmes en blanc, dont quelques-uns ont la tête sous le bras, et qui tous tiennent des harpes et chantent sans arrêt et trouvent cet exercice infiniment agréable. Voilà ce qu'il croit, ce prêtre. Et tout cela, vois-tu, ce n'est que pure folie. Ou bien tout cela peut-être est beau. Je connais des hommes intelligents qui le prétendent, mais très certainement, rien de tout cela n'est vrai. »
Ma belle eut un gentil sourire rassuré. Jamais elle n'avait entendu ces choses exprimées d'une façon aussi amusante.
« Eh, sans doute, mon chéri, rien de tout cela n'est vrai. Mais comment donc ce prêtre peut-il y croire? Il avait l'air, pourtant, lui aussi, d'un homme très intelligent. »
« Vois-tu, mon amour, si l'on t'avait dit dans ton bureau que la lune est un fromage vert et que, toujours, depuis lors, on te l'eût répété, tu aurais bien de la peine à ne pas le croire à présent. Mais tu sais bien, toi-même, dans le fond de ton cœur, que ce sont les gens de l'euthanasie qui sont les seuls vrais prêtres. »
Ma belle eut un soupir de satisfaction. Elle se releva.
« Olivier, tu n'as pas ton pareil pour rassurer et pour consoler. Mais maintenant, il faut que je remonte dans ma chambre. Je suis encore toute secouée. »
Déjà parvenue près du seuil, elle s'arrêta et montra à son mari l'une de ses bottines. «
Regarde, » dit-elle d'une voix défaillante. Il y avait, sur l'extrémité de sa bottine, une étrange tache couleur de rouille. Et Olivier vit la jeune femme devenir toute blanche. Il courut la prendre dans ses bras. «
Allons, ma chérie, dit-il, un peu de courage. »
Elle leva les yeux sur lui, sourit bravement et sortit. Une demi-heure après, M. Philips reparut dans le bureau d'Olivier avec une autre liasse de papier.
« Toujours pas de nouvelles de Lorient, monsieur, dit-il. »